bienvenue à bord de Tous en scène, en compagnie de la Dame Brune. Une croisière chaque jeudi, de 15h à 16h, à la découverte de nos artistes régionaux. De vous retrouver 2 heures ensemble. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous ai concocté une émission spéciale. 2 heures d'auteurs, compositeurs, interprètes. 2 artistes guitare-voix. La première heure sera consacrée à Francisco da Conceição et la deuxième heure à Chris de Courtil. Bonjour Francisco da Conceição.
Bonjour Annie et bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Radio Plus.
Comment il va, Francisco da Conceição?
Eh bien Annie, pour moi c'est vraiment un grand plaisir de retrouver enfin les locaux de Radio Plus. Et c'est toujours un plaisir de venir ici, donc voilà, surtout après cette période un peu particulière qu'on a tous vécue.
Comment il a supporté le confinement, Francisco?
Alors, il y a eu plusieurs aspects. D'abord, c'est vrai que c'est une expérience inédite, hein, d'être un peu assigné à résidence comme ça. Et c'est ça a été nouveau pour tout le monde. En ce qui concerne les activités, moi, le fait de travailler de chez moi, c'est quelque chose à laquelle je suis habitué, puisque en tant qu'indépendant et en tant qu'artiste, mes activités se passent essentiellement chez moi. Donc de ce point de vue-là, ça n'a pas beaucoup changé mon quotidien. Le fait d'écrire, c'est quand même des activités de solitaire. Donc ça n'a pas trop changé. En plus, je suis quelqu'un qui ne s'ennuie jamais. À côté de mes activités d'artiste, j'ai d'autres activités qui me permettent de m'occuper. Là, par exemple, j'aime beaucoup bricoler. Pendant le confinement, eh bien, je me suis amusé à me construire un poulailler. Donc voilà, maintenant j'ai 2 poules. Donc j'ai des œufs frais. C'est assez drôle. J'aime beaucoup jardiner et tous les ans je fais un potager. Donc là, c'était carrément la période où on préparait le potager. Donc voilà, ça m'a pris du temps. Et en plus, on a eu la chance d'avoir un temps merveilleux. On a eu du temps qui permettait d'être à l'extérieur. Et puis, comme vous l'avez compris, moi, j'ai la chance d'avoir un jardin. Donc, c'est quand même... J'ai conscience que par rapport à quelqu'un qui vit dans un appartement et qui n'avait vraiment pas la possibilité d'être en extérieur, j'avais une situation quand même un peu plus... un peu moins difficile, on va dire. En plus, ce que je peux ajouter, c'est vraiment que moi, j'adore le lieu où je vis. Hein. Je vis dans la même maison depuis pratiquement 20 ans maintenant. Et c'est vraiment un lieu que j'adore. Bah, c'est le lieu où j'ai écrit quasiment toutes mes chansons. C'est le lieu où j'ai écrit mes 2 premiers romans et dans lequel je suis en train d'écrire et de bâtir petit à petit le 3e. Donc, pour répondre à votre question, comment j'ai vécu le confinement, on va dire à 80%, ben j'ai vécu ça plutôt bien. Par contre, et ça, je pense que je ne suis pas le seul, y a toutes mes activités extérieures ont été annulées. Moi, je fais beaucoup de salons de livres, des salons du livre habituellement. Là, ils ont tous été annulés. Je fais également des ateliers d'écriture ou des ateliers d'éveil musical, donc ils ont été suspendus. Et je fais aussi de temps en temps un peu de soutien scolaire. Donc toutes ces activités où on avait besoin d'être là en présence d'autres personnes, et pour moi aussi, elles ont été annulées. Et alors je dirais pas que je l'ai mal vécu, mais ce sont des activités qui m'ont manqué. Ça c'est sûr. Et à côté de ça également, bah, tout ce qui est vie sociale. Moi j'ai une vie sociale plutôt développée. J'ai énormément d'amis. Le fait de pas les voir, c'est quelque chose qui est difficile. Je crois que c'est la chose qui a été la plus difficile. à vivre. Et puis on se sent quand même privé de liberté. La liberté de circuler, c'est quand même quelque chose qui est, enfin, à laquelle je suis vraiment attaché. Donc, pour la situation, j'ai joué le jeu, hein. Quand je sortais, je suis sorti peu. Quand je sortais, je faisais mon attestation comme tout le monde, hein. Mais c'est que cet aspect-là, c'est un aspect que je vis pas forcément bien, ça. Voilà. Eh bien, ce qu'on peut écouter maintenant, donc c'est une chanson qui parle un peu d'écologie, un peu c'est beaucoup dans l'air du temps, même si j'écris cette chanson il y a 15 ans presque maintenant. Elle s'intitule Le joaillier du monde.
L'image de ce jeune peintre qui va naturel vers la toile. Je m'envole sans nulle crainte, je suis attiré par les étoiles. Votre monde ne me dit rien, je vais rejoindre celui des chiens, des poètes, amoureux du voyage, fidèle compagnon des nuages. Non, je ne peux plus supporter cette gueule de l'humanité qui se plaît à mutiler les âmes éprises de liberté. Et ce visage du bon Dieu qui ferme trop souvent les yeux sur les crimes qu'un tas de tyrans commettent sur sa boule de diamant. Mais le joaillier, c'est curieux, à tous les bourreaux il pardonne, leur permet même d'être heureux. Ont-ils semé ce qu'ils moissonnent? J'avais rêvé d'une autre sphère, créée d'amour et de beauté, peuplée de drôles de mammifères, ayant pour seule quête d'aimer, pour pouvoir enfin remplacer ces hommes qui veulent la mort des hommes, qui gueulent, qui tuent pour nous prouver que seul leur chemin mène à Rome. Elles nous promettent tout l'enfer, ces belles armées d'intolérants qui s'amusent à faire la guerre sur une planète rouge de sang. Et je m'étonne que le bon Dieu, que je voulais plus consciencieux, leur permette autant d'infamie sur son morceau de rubis. Mais le joaillier courageux, à tous les soldats il pardonne, c'est peut-être tout ce qu'il peut face à des hommes qui l'abandonnent. Comment ne pas avoir le cœur gros quand on voit ce qu'ils font de la terre, qu'ils massacrent les animaux, sans regret polluent les rivières. Qu'y a-t-il de plus écœurant que ces sinistres pétroliers quand ils se vident dans l'océan sur une mer bleue noire marée? On sera bientôt asphyxié grâce à ces mêmes imbéciles qui terrassent les calmes forêts pour faire pousser le bruit des villes. Et je me demande pourquoi, bon Dieu, toi le miséricordieux, tu aimes cet homme qui galvaude ton plus bel éclat d'émeraude. Mais le joaillier perd en pleurs, à ses créatures il pardonne de n'être pas à la hauteur. Il nous aime d'un amour sans borne. Thank you. C'est aujourd'hui la vieille terre que je contemple de là-haut. Parmi mes amis de lumière, ému par ce qu'il y a de plus beau. Et je comprends que le bon Dieu en ait des larmes plein les cieux, donnant le meilleur, craignant le pire pour son morceau de saphir. Mais le joaillier mystérieux, folie qu'à lui-même il pardonne, n'a pas de bijoux plus précieux que le cœur de certains hommes.
Francisco, comment vous voyez la vie maintenant et comment allez-vous l'aborder ?
Bon, c'est vrai que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une expérience qui a été un peu inédite, hein, et c'est marquant, hein, de voir à quel point les peurs sont pas les mêmes de personne à d'autres. On va dire psychologiquement, tout le monde n'est pas touché exactement de la même façon, puisque le c'est un... On va dire que c'est une expérience qui a vraiment qui a fait appel aux peurs, et les peurs, c'est quelque chose de personnel. Donc, comment je vois la vie maintenant ? Eh bien, bon, sachez que moi, j'ai toujours été un vrai optimiste, et je reste un optimiste. Moi, je pense que on doit tout faire pour réussir à continuer à vivre d'une façon normale, le plus rapidement possible. Attention, je ne veux pas dire là qu'il faut faire tout et n'importe quoi. Il y a des gestes barrières, et effectivement, on doit être prudent et on doit se protéger. Et puis aussi, il faut penser aux personnes qui sont dites à risque, hein, les personnes qui ont plus de 65 ans, celles qui ont déjà des maladies. Et donc, ne serait-ce que pour le respect des autres, faut pas faire n'importe quoi. Mais moi, vraiment, je souhaite et j'espère qu'on pourra à nouveau vivre normalement assez rapidement. Même si ce qu'on a vécu, c'était... Ça a profondément changé certaines habitudes. Moi, je pense que ça fait partie de la vie des êtres humains d'être en contact avec des virus et surtout d'apprendre à vivre avec eux. Alors, ce qui peut un peu faire peur par rapport à ça, c'est par rapport à justement ce virus-là, c'est qu'on n'a pas encore trouvé de vaccin. Donc, effectivement, je pense que, comme pour les autres virus, il va falloir apprendre à vivre avec. Alors attention, je dis pas que ce qu'on a vécu n'était pas grave, et je cherche certainement pas à minimiser la situation, bien au contraire. C'est une période où il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de familles ont été touchées, et ça, on peut pas faire comme si ça n'avait pas existé, ou faire comme si c'était pas important. C'est pas du tout ce que je dis. Par contre, ce que je dis, c'est que pour moi, c'est la vie qui doit être plus forte, et on doit faire en sorte qu'elle reprenne ses droits vraiment, quoi. Donc ça, c'est par rapport à la maladie même. Après, moi, je pense que la période du confinement a eu des effets effectivement des dévastateurs. Elle a fait peur à beaucoup de gens. Beaucoup de gens ont eu peur de mourir carrément, même si c'est effrayant de dire ça. Mais c'est aussi une période qui a été propice à l'introspection, à réfléchir sur soi, sur notre façon de vivre au quotidien, notre façon de consommer, notre façon de vivre avec les autres, les rapports qu'on a avec les gens proches. J'ai reçu le témoignage de plusieurs personnes de mes amis qui ont dit que bah, ils ont recréé du lien avec des personnes de leur famille, par exemple. Moi, le premier, j'ai au lieu de téléphoner simplement à des gens de ma famille, à chaque fois que ça a été possible, on a eu des contacts en visio. Alors, c'est vrai que la visio, ça remplace pas le fait de se voir, hein, d'être vraiment en présence d'une personne. C'est carrément pas la même qualité, c'est sûr, mais je trouve que c'est une belle quand on n'a pas le choix, c'est déjà pas mal. Et comme pour le reste, je trouve qu'à notre époque, on a quand même cette chance. Hein, si on avait eu ce confinement, ne serait-ce que dans les années 80, par exemple, que j'ai vécu, le confinement aurait été plus strict. Il y aurait réellement eu des coupures entre les gens. Alors que là, alors je dis pas qu'il n'y a pas eu de coupure, puisqu'on s'est pas vu en direct, mais la technologie nous a permis quand même de garder des liens et même d'en créer des liens différents. Alors en ce qui concerne la façon de consommer et la façon de vivre, moi je suis quelqu'un qui est plus dans une dynamique de consommer utile et j'aime bien les circuits courts quand c'est possible, et ben là ça fait réfléchir justement le confinement, la crise sanitaire a montré que par rapport à beaucoup de choses, finalement notre pays était dépendant de beaucoup d'autres pays, alors que on a des compétences. Alors toi, attention, c'est pas du tout un discours nationaliste, hein. Moi je suis pour l'ouverture, mais c'est vrai qu'au niveau de beaucoup de produits, et notamment les produits de première nécessité, des premiers des produits alimentaires, c'est vrai que si on peut consommer chez le maraîcher qui est à côté, moi je pense que c'est à la fois utile et c'est un geste qui fait vivre tout le monde, quoi. On fait vivre le local, voilà. Et je pense que je suis pas le seul à avoir réfléchi sur ma façon de consommer, je pense. Alors comme je vous le disais, c'est une période donc qui a été propice à la réflexion, et moi-même j'ai regardé un peu comment je vis et ce que je pouvais améliorer. Alors, je pense que tout le monde gagnerait à vivre une vie plus simple. On a tous des vies qui sont compliquées, qui sont souvent dans un rythme effréné. Et depuis que je suis indépendant, j'ai déjà essayé d'adopter, de regarder ma vie avec plus de simplicité. Et pour illustrer ce que je vous dis, je vais vous donner un exemple concret. Aujourd'hui, c'est habituel d'avoir beaucoup d'activités et de faire beaucoup de choses. C'est mon cas. Ce qui a changé, c'est que avant, j'essayais d'aller vite, de vraiment faire le plus possible dans une journée. Alors, je dis pas que j'essaie pas d'optimiser. Mais dans mon organisation, ce qui a changé, c'est que je fais les choses avec le temps nécessaire pour les faire. Si j'écris une chanson et qu'il me faut 2 jours pour écrire cette chanson, je vais pas essayer de l'écrire en 1 jour et demi. Je vais, pour pouvoir faire autre chose de ma demi-journée, je vais m'organiser, quitte à réduire mes activités, quitte à avoir des objectifs un peu moins élevés. En termes de quantité de choses faites sur la semaine ou dans le mois, mais pour produire vraiment à tête reposée, sans stress, ce que j'ai à faire, quoi. Donc je peux me permettre de le faire parce que je suis indépendant, mais je pense que au quotidien, sur les activités qui sont les nôtres, je dois pas être le seul à pouvoir aussi dire voilà, j'en ai marre de faire toujours les choses entre deux. Je vais me poser, je vais regarder mon agenda et je vais voir ce que je peux bouger pour faire les choses avec plus de simplicité, comme je le disais tout à l'heure, et plus de sérénité surtout, pour produire plus de qualité tout simplement. Et donc une des conclusions à laquelle j'en suis arrivé après cette période, c'est que plus que jamais, il faut profiter de la vie. Faut voir les gens qu'on aime, si on a des projets qui nous sont chers, des rêves qu'on a envie de réaliser, c'est maintenant qu'il faut y travailler. Demain il sera peut-être trop tard. On a vu que un virus c'est quelque chose de minuscule et on voit à quel point cette chose minuscule elle peut du jour au lendemain faire basculer des vies. Donc voilà, je parlais de simplicité, mais aussi de retour à l'essentiel. Il y a aussi beaucoup de projets dans lesquels on est engagé et qui nous font pas vibrer, par exemple. Alors, je dis pas qu'on peut tout abandonner et comme ça du jour au lendemain, c'est pas vrai. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est préparer. Et donner plus d'intérêt à certains projets qui nous tiennent à cœur, j'allais dire qu'on a dans le cœur, et peut-être délaisser et pas mettre trop d'énergie sur des projets sur lesquels on n'a pas cette flamme quoi qui nous fait vibrer quoi. Eh bien, je te propose d'écouter maintenant une chanson que j'ai écrite avec Emmanuel Mérolenuf, qui s'intitule Le Petit Bal. Le Petit Bal.
Il y a 40 ans, c'était banal. Après la semaine de travail, on se retrouvait dans une petite salle le samedi soir, dans un petit bal. Quelle minutie pour se préparer, pas trop coquette pour ne pas choquer ses sœurs qui la surveillaient, la belle Jeanne allait danser. À la campagne, fête rurale, sous un ciel clair rempli d'étoiles, elle seule l'a vu venir de loin, lui qui semblait un citadin. Soudain sorti de nulle part, il y avait cet homme aux cheveux noirs. Elle l'attendait, elle espérait qu'il l'inviterait à passer. Et quand il s'est approché d'elle et dit « Vous dansez, mademoiselle », immédiatement elle a compris qu'il était l'homme de sa vie. C'était banal, on se retrouvait dans une petite salle, bal de la croix et des destins, celui-ci a changé le sien.
Bonjour, c'est Richard Sanderson. Vous êtes bien sur le 104.3 Radio Plus, en compagnie de la Dame Brune. Et là, vous écoutez All My Dreams Come True, mon dernier single de mon album, How to Be Elegant.
Francisco, dans l'écriture, déjà deux livres à votre actif, hein, et aussi vous en êtes tout dans la chanson.
Eh bien, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai des projets plein la tête. Effectivement, j'ai des projets également dans l'écriture. Alors, rapidement, pour rappeler ce que j'ai fait jusqu'à présent dans l'écriture, effectivement, j'écris pas mal de chansons. J'ai sorti un album il y a quelques années. Et le principal de mon activité maintenant, c'est d'écrire des romans. Donc j'ai écrit un premier roman, La blessure de l'ange, qui a été que j'ai sorti en décembre 2016. et un second roman, Comme un parfum d'éternité, qui est sorti en juillet 2018. Donc ce deuxième roman va avoir une deuxième vie, hein, donc on en parlera tout à l'heure, hein, donc il va y avoir une seconde édition en octobre 2020. Et je suis actuellement en écriture de mon troisième roman. Alors, Annie, vous commencez à me connaître. C'est pas la peine de me demander quel est le sujet, de quoi ça parle, quels sont les lieux qui vont servir de décor à mon troisième roman. Vous savez que tant que mes romans ne sont pas terminés, je n'en parle à personne. Mais vous inquiétez pas, quand il sera terminé, je viendrai avec plaisir pour partager les informations avec les auditrices et les auditeurs de Radio Plus. Et donc ce troisième roman sortira sans doute l'année prochaine en 2021, après la réédition de Comme un parfum d'éternité. Voilà. Alors j'ai d'autres projets. Comme vous le savez, je fais des ateliers d'écriture. Et j'ai un partenariat fort avec le LAM de Villeneuve-d'Ascq, donc c'est le musée d'art moderne, d'art contemporain et d'art brut de la métropole lilloise. Je réalise avec eux, j'interviens régulièrement pour des ateliers d'éveil musical pour les tout-petits, donc qui s'adressent à des enfants de âgés de 1 à 3 ans. Où là, on fait une petite visite avec un guide pendant une quinzaine de minutes. Et après, moi, je fais un atelier d'éveil musical autour de comptines originales que j'écris avec une amie. Je la salue, Emmanuelle Méraud-Lenuf, qui est d'ailleurs une de mes auteurs de chansons, hein, dans mon premier album, dans mon album donc de chansons. Elle a écrit avec moi le texte du Petit Bal. Voilà, on la retrouve. Et donc voilà, donc ce projet-là d'atelier d'éveil musical, il est en route, bien ancré au LAM de Villeneuve-d'Ascq. Je le fais également dans certaines médiathèques. Je l'ai fait au mois de mars, juste avant le confinement, à la médiathèque de Nomain. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui tourne. Je fais avec eux également un atelier d'écriture de chansons. Il est prévu au mois de juillet, du 6 au 10 juillet. Alors là, malheureusement, il va être limité en nombre de personnes. D'habitude, on peut accueillir des groupes de 15 à 20 personnes, donc 15 à 20 enfants. Et là, malheureusement, ça va être limité à 10 enfants. Alors, vous pouvez contacter le LAM de Villeneuve-d'Ascq si vous êtes intéressé, mais je crains qu'il soit déjà complet, puisque ce sont des ateliers qui se remplissent quand même assez rapidement. Et là, donc, dans les grandes lignes, hein, pour vous expliquer et expliquer aux auditrices et aux auditeurs de Radio Plus le principe de ces ateliers, là, je suis en collaboration avec, donc en duo avec une guide conférencière du LAM. Donc, j'y vais 3 heures par après-midi pendant toute la semaine. Le premier jour, avec les enfants, nous faisons une visite de quelques œuvres présélectionnées par la guide. Ensuite, on retourne à l'atelier et les enfants vont choisir soit une œuvre d'art qui les a particulièrement touchés, soit un artiste. Et pendant la semaine, avec les enfants, nous allons écrire une chanson sur l'œuvre ou sur l'artiste choisi. Et parallèlement à ça, avec la guide conférencière, on va faire également aux enfants une œuvre d'art plastique, soit sur le même thème, soit sur d'autres thèmes, soit sur une technique particulière. Ça peut être de l'estampe, ça peut être voilà, le travail de matière comme le carton, le collage, les couleurs, etc. Alors, en ce qui concerne les chansons, alors dans l'écriture même des chansons, c'est une activité pour l'instant qui me prend un peu moins de temps. Je m'y consacre pas vraiment parce que mes autres activités me prennent vraiment beaucoup de temps. Par contre, ce que je peux dire, c'est que en fin d'année, on a finalisé avec une commune avec laquelle j'ai travaillé, on a finalisé le projet de faire un CD qui est une compilation de toutes les chansons que j'avais écrites avec les enfants qui fréquentent les écoles de cette commune. C'est la commune de Faumont. Et donc on a sorti le CD en fin d'année dernière et on l'a distribué aux enfants. C'était vraiment un acte fort et puis une belle façon de concrétiser et de finaliser le partenariat que j'avais avec cette commune. Voilà, et en ce qui concerne donc les ateliers d'écriture dans les écoles, alors je vous avouerai que là donc il y a eu des élections, donc comme je suis souvent contractuel des mairies, les équipes vont changer et à partir du mois de ici au mois de juin et puis juillet, je vais à nouveau contacter les mairies pour voir donc pour trouver celles qui sont d'accord pour qui sont intéressés pour continuer le partenariat avec moi ou pour le démarrer avec des nouvelles communes. Alors toujours dans l'écriture, hein, j'ai encore des projets qui sont en route, notamment avec le Lame de Villeneuve-d'Ascq où je suis sur certains projets. On ne sait pas s'ils vont se concrétiser, mais les choses sont en route de création. Où là, ce serait pour faire des ateliers d'écriture. En milieu carcéral avec des détenus, donc en 2021. Voilà, donc ce sont des activités qu'on a pu préparer pendant le confinement, donc travailler à distance. Donc ce sont des projets qui sont pour l'instant, ils sont pas que à l'étape de projet, puisque les projets sont déjà construits et ils sont plus à l'étape de trouver les autorisations et les financements qui permettent aux structures de mettre en place réellement les projets. Mais en tout cas, c'est des projets qui sont différents et qui ont tous un grand intérêt à mes yeux. Alors, au cours de cette émission, ce que je te propose, c'est de faire écouter aux auditrices et aux auditeurs de Radio Plus les chansons qui sont extraites de mon album qui s'intitule Les Fous d'amour. Donc, pour te faire plaisir, parce que je sais que c'est ta chanson préférée, Annie, je te propose d'écouter J'ai 50 ans. Et c'est presque vrai maintenant, d'ailleurs.
C'est un beau jour, il y a même un léger vent qui traîne. Les gens qui m'aiment et qui m'entourent font de ma vie un poème. Sur cette terre qu'on croit mauvaise, oui, j'ai fini par comprendre. Ce qu'on reçoit, il faut le rendre. La main sur le cœur nous apaise. J'ai 50 ans et mon portrait, même mon martre veut se le payer. Monsieur le peintre, quelle drôle d'idée, caricaturer la bonté. Il y a des images qui sont sacrées, cette figure-là, si vous saviez, elle représente pour ma mère le plus beau souvenir de mon père. J'ai 50 ans, quand je vois la vie, je me dis quel tour de magie. De beaux enfants prolongent ma chair et feront de moi un grand-père. Et ce mystère qu'abrite le ciel, l'immense bleu de l'océan, l'amour, les saisons et le temps, tout toutes ces choses m'émerveillent, toutes ces choses m'émerveillent. J'ai 50 ans, dans mon regard, y a bien plus d'amour que de haine pour l'homme quand il est sur la mer. J'ai une vraie gueule de capitaine qui sait aimer du même cœur et les tempêtes et les langueurs. Pour la joie et pour le malheur, ce sont bien les mêmes yeux qui pleurent. J'ai 50 ans et au visage 2 ou 3 rides, oh rien de grave. Car malgré cela, quel culot, je suis à la fois mûr et beau, en tout cas dans les yeux de celle qui a donné vie à ma vie pour faire des nuages son pays. Parfois les anges vous prêtent leurs ailes. J'ai 50 ans et dans mes rêves, sur mon bateau je navigue sans trêve. Je contourne la pointe Finistère, j'admire les tas de poires par l'arrière. Et ma chérie fait la grimace, elle a le pied marin sur terre. Mais elle est là, fidèle et fière, d'être avec moi dans mon espace, d'être avec moi dans mon espace. 70 ans, je me fais vieux, mon amour est là comme hier pour me guider. Car dans ses yeux, il y a du phare, la lumière, la mer de Bretagne me sourit. Comme ma femme, je l'aime nature, prouvant ainsi la chose est sûre que mon cœur, lui, n'a pas vieilli. La mer de Bretagne me sourit, comme ma femme, je l'aime nature, trouvant ainsi la chose est sûre, que mon cœur lui n'a pas vieilli, que mon cœur lui n'a pas vieilli.
Écoute Francisco quand il a besoin de se ressourcer ou de s'évader un petit peu hein, en musique.
Alors moi j'adore beaucoup la musique, hein, évidemment, tu le sais Annie. Hein. J'écoute des choses vraiment variées. Là pendant le confinement, comme on a eu un peu plus de temps, j'ai eu l'occasion d'écouter plusieurs choses. Je suis revenu à parfois à certaines premières amours. Donc par exemple j'aime bien les chanteurs italiens, ça je te l'avais déjà dit, et ça me permet de faire un coucou à Jean. Donc j'ai réécouté un peu du Ramazzotti, du Richard Cocciante. Je suis allé aussi revoir un concert que j'avais adoré d'un groupe irlandais qui s'appelle U2, que j'étais allé voir il y a plus de 25 ans maintenant. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu envie d'aller le revoir. Et puis j'ai bien fait parce que ça m'a un peu remis dans une certaine ambiance et puis dans certaines émotions que j'avais à l'époque. Et sinon, j'aime bien aussi un peu ce qu'on appelle les musiques du monde. Et notamment, là je suis allé voir des chansons du Cap-Vert. Il y a une chanteuse du Cap Vert que j'adore qui s'appelle Mera Andrade, mais c'est pas la seule. Je suis allé un peu de ce qui est bien dans YouTube, c'est quand vous écoutez certaines chansons, ils vous proposent des chansons dans le même style. Ça permet de connaître des nouvelles artistes ou des nouveaux artistes. Il y en a un que je connaissais déjà également qui s'appelle Bonga, qui a une voix mais vraiment extraordinaire. Rien que pour sa voix, ça vaut le coup d'aller jeter une petite oreille. Donc Bonga, ça s'écrit Bonga tout simplement, et vous verrez, il y a tout, c'est vraiment un grand de la chanson du Cap Vert. Rester dans tout ce qui est musique du monde, j'écoutais aussi un peu Sarah Tavares qui est également du Cap Vert, et une brésilienne qui s'appelle Marisa Monte que j'adore aussi. Voilà, donc et sinon en français, j'ai découvert une, alors c'est sur YouTube, hein, je sais plus comment je suis tombé dessus, une jeune femme qui s'appelle Barbara Travi, qui a vraiment une belle façon d'écrire aussi, et voilà, ces chansons qui ont un peu accompagné mon confinement. Et pour en revenir aux chansons brésiliennes ou du Cap Vert, ce qui est agréable pour moi aussi, c'est que soit elles sont chantées carrément en portugais, soit en un créole qui rappelle un peu la langue portugaise. Donc comme c'est une langue que je comprends, c'est assez agréable pour moi. Donc voilà pour les chansons que j'ai écoutées pendant le confinement. Alors une petite chanson qui parle un peu, qui raconte les aventures et les mésaventures de la vie de couple. Ça va parler au couple qui était en confinement et qui ont certainement certains vécu des belles aventures et d'autres un peu moins. Voilà, le cache-cache.
Elle écoute Mozart, moi des petites chansons, nous deux c'est bizarre, on s'aime. Elle aime les tableaux, je lis des poèmes, dans ma vie de bohème on s'aime. Elle veut une maison, moi je rêve de voyage, nous deux sans raison on s'aime. Elle aime les gens, moi la solitude, même si l'on se ment on s'aime. Du moins on croit qu'on s'aime. Tu vois, c'est fou ce qu'on s'aime. Elle se plaît en ville, moi dans mon village, nous deux c'est débile, on s'aime. Elle boit mes paroles, moi tous ces silences, nous de tous nos sens on s'aime. Elle aime mes caresses, j'adore ses baisers, nous deux sans lasser on aime. Elle aime vivre à deux, je suis fait pour vivre seul, même quand on s'engueule, on s'aime. Du moins, on croit qu'on s'aime. Tu vois, c'est fou ce qu'on s'aime. Elle est fille d'un ange, moi je n'ai pas de vice, nous deux sans malice, on s'aime. C'est Esmeralda, moi Quasimodo, malgré le père Hugo, on s'aime. Elle c'est pour la vie, moi jusqu'à la mort, nous deux sans remords, on s'aime. Elle n'aime que moi, femme mon seul zénith, va savoir pourquoi on se quitte, va savoir pourquoi on se quitte. L'amour souvent ressemble au cache-cache. On se cherche, on se veut à la folie. On s'éloigne pensant qu'on s'attache. Et quand on se trouve, quand on se trouve, le jeu est fini.
Le jeu est fini.
Et quand on se trouve,
quand on se trouve,
le jeu est fini.
Francisco, parlez-nous un petit peu de vos projets, car je sais qu'il y en a.
Eh bien, mes projets, alors comme je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, j'ai des projets plein la tête. Alors celui qui va me prendre le plus de mon temps, c'est les projets d'écriture. Je suis en train de reprendre contact avec les organisateurs de salons du livre pour pouvoir ici fin d'année être à nouveau dans les salons pour rencontrer mes lectrices et mes lecteurs. Ce que je peux déjà vous dire, c'est que j'ai quelques rencontres et dédicaces qui sont prévues pour la rentrée. Je serai au Furet du Nord d'Arras le 3 octobre. Je serai au Furet du Nord de Douai le 10 octobre. Et je serai au Salon du Livre du Touquet, c'est au mois de novembre. Donc, mais tout ça, vous pourrez le retrouver sur mon site internet que je mettrai à jour pendant l'été pour mes lectrices et mes lecteurs qui souhaitent venir me rencontrer pour qu'ils puissent avoir toutes les informations. Donc voilà, dans un premier temps, donc reprendre contact avec les salons, les rencontres et les dédicaces, c'est pour moi une priorité. Ensuite, je me doute que vous avez vu passer des choses sur internet sur la réédition de Comme un parfum d'éternité. Eh bien voilà, il m'est arrivé quand même une expérience assez extraordinaire, c'est que j'ai été contacté par des éditeurs parisiens parce que j'ai négocié en fin d'année dernière avec deux grandes maisons d'édition et le projet voilà, le projet est signé maintenant. J'ai signé avec les éditions J'ai lu, donc qui vont rééditer Comme un parfum d'éternité. Donc ce sera une édition nationale à partir du 14 octobre prochain, donc ici en 2020. Je serai distribué dans toutes les librairies de France, les FNAC, les grandes chaînes qui. Et puis toutes les plateformes. Donc voilà, c'est une belle aventure, d'autant que je dis pas que je l'ai pas provoqué, mais je ne cherchais pas d'éditeur particulièrement. Et en fait, ça s'est fait un peu par un concours de circonstances. Si vous me permettez, Annie, je vais vous expliquer dans les grandes lignes ce qui s'est passé. En fait, j'ai appris un jour que entre les maisons d'édition et les détaillants, donc les libraires, les Cultura, etc., le Furet, il y a des commerciaux qui sont spécialisés. Sont des représentants qui viennent visiter les enseignes et les libraires pour leur proposer les livres. Et moi, je suis quelqu'un d'assez curieux, et quand je me lance dans une activité, j'aime bien la connaître. Et quand j'ai appris qu'il y avait ces commerciaux-là, je me suis dit, tiens, je pensais bien connaître le milieu dans lequel j'évolue, et finalement, je le connais pas si bien, parce qu'il y a un maillon essentiel qui sont donc ces commerciaux-là que je ne connais même pas du tout. Je ne savais même pas qu'ils existaient. Alors j'ai eu une idée, j'ai eu envie de les rencontrer, et je suis allé voir un libraire avec qui je travaille depuis le début. Le premier libraire qui a pris mes livres, c'est La Petite Récré à Somain, et je lui ai demandé de me mettre en relation avec des représentants qui viennent la visiter. Et c'est là, sans le savoir, hein, puisque je n'avais pas d'intention de contacter qui que ce soit, c'est là sans le savoir que tout a commencé. En fait, cette commerciale a lu mon second roman, Comme un parfum d'éternité, et puis elle m'a envoyé un message me disant qu'elle avait vraiment adoré et que mon roman, Comme un parfum d'éternité, l'avait vraiment touché. Et donc, je lui ai envoyé un message pour la remercier. Et voilà, pour moi, je pensais que ça allait s'arrêter là. Et là, contre toute attente, elle me renvoie un message quelques heures plus tard, en me disant, si vous n'êtes pas engagé avec un éditeur, est-ce que vous me permettez de l'envoyer à des éditeurs que je connais? Et voilà, c'est arrivé jusqu'à J'ai lu, qui m'a rappelé. Et voilà, c'est comme ça que cette belle aventure, j'espère, puisque voilà, je continue à apprendre. Hein, c'est la première fois que j'ai un éditeur, et le fait que ce soit un grand éditeur parisien comme ça, c'est... Ben, je suis à la fois content, mais ça met aussi pas une pression, mais je sais que je dois apprendre à vivre avec un éditeur et savoir un peu comment on fait, comment on gère cette relation-là, quoi, qui est une relation que je connais pas, puisque c'est pas une relation de c'est pas un contrat de travail, quoi. C'est vraiment un contrat signé pour un roman donc qui leur permet de l'exploiter. Et il y a une autre dimension également, c'est que moi je suis quelqu'un qui est plutôt actif, qui aime bien me déplacer et qui aime bien aller à la rencontre de mes lectrices et de mes lecteurs. Et là du coup le périmètre dans lequel je vais être amené à évoluer donc passe de la région, on va dire, au périmètre national. Donc et puis ben, mais ça c'est quelque chose que je vais devoir gérer, mais que j'ai hâte de faire. J'ai hâte d'aller dans d'autres régions et rencontrer mes lectrices et mes lecteurs, et puis aussi leur montrer, hein, moi je suis un gars du Nord, hein, leur montrer à quel point les personnes qui vivent de notre région peuvent être dynamiques et chaleureuses, et puis aimer partager voilà ce qu'elles font, quoi. Voilà, donc c'est un beau projet et il est d'autant plus beau qu'il est inattendu, parce que c'est autant j'ai contacté des éditeurs, j'ai envoyé mes manuscrits, surtout le premier à plus d'une quarantaine d'éditeurs qui ne m'ont pas accepté, et finalement les éditions que j'ai lues que je n'avais jamais contactées, c'est avec eux que je démarre cette aventure là, quoi.
Merci Francisco. On se quitte avec une de vos chansons, hein, L'absence à table.
Un grand merci à toi, à Annie, pour ton soutien et puis pour ton invitation. Comme à chaque fois, j'ai été ravi d'être ici pour toi et pour les auditrices et les auditeurs de Radio Plus. Je tiens à remercier toutes celles et tous ceux grâce à qui cette émission et vos émissions sont possibles. Donc, je pense à Christophe, votre directeur, mais également à Willy, à la technique, et puis à Jean qui a participé aussi, je sais, à cette émission. Voilà, en tout cas, un grand merci à tout le monde, et puis à très bientôt sur Radio Plus.
Deux enfants de 15 ans assis sur un vieux muret, enlacés comme des grands, profitent du soir d'été. Les étoiles brillantes tentent de faire oublier que la lune insolente refuse de se montrer, que la lune insolente refuse de se montrer. Le ciel berce l'espoir, tout de temps ils l'ont rêvé. Enfin ils vont pouvoir l'un à l'autre se donner. Et malgré leur fortune demeure l'intime regret. Souveraine l'autre brune, cette nuit s'est éclipsée. Souveraine l'autre brune, cette nuit s'est éclipsée. Sont pourtant si beaux que devant eux l'on jurerait que le peintre là-haut a réussi son tracé, et l'absente au tableau ne peut rien leur enlever. Parfait les tourtereaux, rien ne manque à la beauté. Parfait les tourtereaux, rien ne manque à la beauté. Qui donc les emporter? Est-ce la nuit, est-ce le vent, ou simplement les années qui nous rendent si pâles sans nos belles couleurs passées, et si seules sur la toile que la lune vient narguer, et si seules sur la toile que la lune vient narguer.